With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
Marie-Aldine a une sœur jumelle et leur maman les a eues à 17 ans. Une surprise de la vie arrivée tôt qui aura pas mal chamboulé les plans de cette famille. Il y a 38 ans, les infos sur la maternité étaient moins nombreuses qu'aujourd'hui, les tabous d'autant plus grands. Mais une chose était déjà là, devenir la mère parfaite était un objectif en soi. Marie-Aldine a donc pris le contre-pied de l'histoire de sa maman, voulant quant à elle avoir un enfant le plus tard possible et profiter de la vie jusqu'à trouver celui qui serait le bon. En devenant à son tour maman, tous les sujets tabous lui sautent aux yeux et sa sœur et elle décident d'en faire un bouquin, une sorte de manuel de survie pour les mamans. Elles ont bien compris que la mère parfaite n'existait pas et que la pression était énorme. Dans cet épisode, Marie-Aldine nous raconte l'histoire de sa maman, elle nous parle de l'arrivée de sa fille à l'approche de la quarantaine et du poids de la société sur les épaules des jeunes parents. Bonne écoute.
Bonjour Marie-Aldine.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans Le Tourbillon. Tu as une sœur jumelle.
Oui. Anne-Sophie.
Anne-Sophie, exactement. Et donc ta maman vous a eu très jeune.
Oui, elle était enceinte à 16 ans, elle a accouché, elle venait juste avant 17 ans.
Ouais.
Et elle est restée avec mon papa qui avait une vingtaine d'années pendant 15 ans. Donc voilà, ils sont partis dans le sud tout de suite. Nous, on est arrivés dans le sud, on avait quelques mois. Mm-hmm. Donc loin de la famille, donc elle n'a pas pu se faire aider des grands-parents, etc. Et elle est arrivée, donc des petites jumelles à 17 ans, avec la difficulté qu'on connaît.
C'était une grossesse surprise.
C'était une grossesse surprise,
ouais.
Tout à fait. Ouais. Non, c'était mûrement réfléchi à 16 ans. Non, c'était une grossesse surprise, mais ils étaient très contents. Bon, deux, je pense que ça a été...
Ouais, ça a été chaud.
En plus, à l'époque, il n'y avait pas d'échographie. Enfin, c'était vraiment... Enfin, il y en avait, mais ils en faisaient très peu. Mais en revanche, on est une famille jumeau. Donc, c'était...
D'accord.
Voilà. Mes grands-mères sont jumelles, mes cousins sont jumeaux. On est des jumeaux naturels.
Ouais, il y avait des chances que...
Alors, non, c'est une génération sur deux.
Ouais.
Et ça, c'est vérifié, en tout cas, dans ma famille. Donc, il y a des chances que mes petits-enfants soient jumeaux.
OK.
Voilà. Moi, j'avais peu de chance d'en avoir, mais mes petits-enfants... Et ça s'est vérifié, puisque ma grand-mère est jumelle aussi.
Et alors, est-ce qu'elle vous a raconté toute son histoire de maternité, justement?
Elle nous en a beaucoup raconté. En fait, je pense qu'il y avait une telle pression de la société sur le fait de la famille, de la société, sur le fait qu'elle soit maman à 17 ans, qu'elle s'est donnée comme une ligne et comme objectif de nous élever au mieux. Donc elle lisait énormément, il n'y avait pas internet à l'époque, donc elle avait beaucoup de livres sur la gémilité, sur l'éducation, elle était omnubilée par l'éveil, par la discussion, l'éducation positive avant l'heure. Et d'ailleurs, on a sauté une classe parce qu'elle nous a beaucoup stimulée quand on était petite, etc. En fait, elle se disait, moi je suis jeune, on ne pourra rien, on ne me pardonnera rien, on ne me laissera rien passer. S'il y a la moindre erreur, s'il se passe la moindre chose, mes enfants seront beaucoup plus critiqués que les autres. Donc il faut que je sois irréprochable, que mes enfants soient irréprochables. Donc elle a tout fait pour ça. Quoi. Bon, après, on la remercie, hein. On voit tout le travail qu'elle a fait.
Ouais. Et elle a du coup arrêté ses études.
Elle voulait être styliste, elle a tout arrêté. Justement pour se consacrer à notre éducation. Après, elle a pu reprendre sa vie, entre guillemets, quand on avait 12 ans à peu près, elle a recommencé à 10-12 ans, elle a recommencé à travailler. Mm-hmm. Mais malheureusement, elle n'a pas pu avoir de carrière.
Oui.
Voilà. je pense, carrière qu'elle aurait méritée. Et elle aurait été en plus super bonne styliste, mais malheureusement, c'était trop tard pour elle. Elle s'est un peu sacrifiée aussi pour nous, quoi.
Ouais. Et alors, avoir une maman toute jeune
Bah, ça a ses avantages et ses inconvénients, dans le sens où c'est compliqué après de trouver sa place. Mm-hmm. Parce que la place de la mère, elle grand... difficile aussi à trouver, dans le sens où elle grandit en même temps que nous. Donc, de 17 ans à 34 ans, par exemple, elle grandit. Quand on sort en boîte, qu'on a 17 ans, que notre mère a 34 ans, et d'un âge aussi de sortir en boîte,
ouais,
voilà, c'est compliqué de trouver sa place. Il y a une sorte de repères qui sont plus difficiles à trouver. Mais après, ça se fait, de toute façon. Et puis elle méritait aussi de rattraper sa jeunesse dans les années qui ont suivi, quoi.
Oui.
Parce que malheureusement, elle n'a pas eu de jeunesse.
Vous avez une relation plutôt...
fusionnelle, vraiment.
Fusionnelle, ouais, copine
Non, vraiment mère-fille. Non, parce que ma mère, ça a toujours été autorité avant tout, même si on pouvait la croiser en boîte de nuit quand on avait 17 ans. Ça restait l'autorité.
Ouais.
Donc, non, il y a pas, c'est pas, on n'est pas des copines. D'ailleurs, on nous a toujours élevées en nous disant « je ne suis pas votre copine,
ouais.
Je suis votre mère, chacun sa place ». Ça, c'était son obsession. Comme il fallait trouver sa place, c'était chacun sa place.
Ouais, tout était plutôt carré, du coup.
Oui, exactement. Mm. Tout était carré. Et le fait est qu'aujourd'hui, en étant jeune maman, j'ai envie de reproduire, pas tout, mais une bonne partie de son éducation. Quand je lui ai dit ça, un jour, elle m'a dit « c'est le plus beau compliment que tu pouvais me faire,
en fait.
C'est la plus belle chose qu'on peut entendre. » Et c'est vrai. J'aimerais être un peu aussi autoritaire comme elle l'a été, pour les bonnes raisons.
Mmh.
Voilà.
Poser un cadre.
Exactement.
Nécessaire.
Voilà.
Et alors, justement, toi, comment est venu le sujet de la maternité? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu as pensé très jeune, ou au contraire, est-ce que tu as laissé traîner?
Alors, quand j'étais plus jeune, je disais que je voulais avoir des enfants jeunes, comme ma mère.
Oui.
Mais après, quand j'ai commencé à être quand j'ai commencé à avoir 25, 26 ans, là, même avant, on va dire une vingtaine d'années, j'ai su très rapidement que je voulais avoir des enfants tard. J'ai su très rapidement, en fait, que je voulais vivre ma vie de femme, justement, que ma mère n'avait pas eu. Pas que par rapport à elle, mais aussi parce que j'avais envie de faire plein de choses. Je suis une fille du Sud, j'avais envie de monter à Paris, j'avais envie de me lancer dans la carrière de journaliste. Voilà, je savais que les enfants arriveraient plus tard.
Mm.
Voilà, je me voyais vraiment vivre une vie et de célibataire et de mère sur le tard. Je me voyais pas en couple jeune, je me voyais très bien trentenaire célibataire, ça m'allait très bien.
Oui.
Vraiment. C'était presque un objectif pour moi quand j'ai 20 et quelques années. Voilà, je dis, oh, moi je serais plus Bridget Jones, tu vois. Ah, vraiment, c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, voilà, je me dis, après c'est mon choix, mais je me dis que c'est, en tout cas, c'est ce qui m'allait. Mmh. Parce que moi, j'étais pas du tout une célibataire qui en souffrait, au contraire, c'était pendant un choix.
Mmh.
Voilà. Donc j'ai profité, j'ai choisi après de me caser quand j'ai rencontré le bon.
Et t'en discutais avec ta maman, justement, de ce choix?
Ah, ma mère, elle me disait le plus tard possible.
Oui.
Elle me disait, oh là là, profite ma fille, profite. Même si le jour où je lui ai dit que j'étais enceinte, elle a pleuré. C'est le plus beau jour de ma vie, j'attends ça depuis des années. Mais elle ne me l'a jamais dit.
Pas de pression.
Ah, jamais. Ah non, jamais, jamais, jamais. Alors que mon Dieu, maintenant, elle est gaga, elle ne vit plus que pour sa petite fille. C'est de fou.
Et ta sœur aussi, du coup, elle fait un peu le même choix d'avoir un enfant plus sur le tard.
Ouais, ouais. Tout à fait. Mais toute ma génération, enfin mes copines, sont plutôt dans cette ligne-là.
Mmh.
Alors après, j'allais dire mes copines de province, parce qu'on est provincial, on est de Montpellier, peut-être les ont un peu plus tôt, parce qu'il y a un autre cadre, et puis une sécurité financière, des appartements plus grands. Bah, quand on a 35 ans et qu'on a un studio, des fois on se dit, bah, tiens, je vais peut-être pas me lancer dans une famille nombreuse, alors que quand on est dans le sud avec une maison à 25 ans, on se dit, bon, bah, j'ai 5 chambres.
Non, mais allons-y.
Voilà, il y a des problèmes qui sont différents. Donc, mais c'est vrai que ma sœur est comme ça, mais mes amis aussi. Mes amis sont effectivement plus... Alors, pas que par choix aussi, parce que c'est compliqué aussi de trouver un mec à Paris, de trouver... un garçon qui a envie aussi de construire quelque chose. J'ai l'impression qu'on est une génération, la première génération, par rapport à nos mères, ou pas une génération sacrifiée, ce ne serait pas le terme. J'avais utilisé ce terme la dernière fois, mais c'est-à-dire qu'en fait, on est perdu dans nos relations où on ne sait plus si on a envie de se mettre en couple, si on a envie de continuer à faire la fête, si on veut continuer à travailler, si on est perdu. Donc, on est tous dans le même bateau, et hommes et femmes, parce que les hommes aussi doivent trouver leur place. Avant, ils ne se posaient même pas ce genre de questions. Maintenant, ils ont aussi envie d'être prêts. Et en même temps, quand ils rencontrent des filles de 38 ans, ils se disent « Oh mon Dieu, elles vont me faire un bébé !» Donc, quand tu as 38 ans, quand tu es célibataire, tu as l'impression que tu es foutue au moins jusqu'à 43. Jusqu'à ce qu'ils disent « C'est bon, elle ne peut plus m'en faire un. » Donc, mais il y a tellement de choses. On est une génération où on se pose toutes ces questions qui ne se posaient pas avant. Et je pense que les générations d'après, on est en train de travailler pour elles. Tu vois, même par exemple avec la PMA, etc. C'est maintenant que c'est compliqué. Je pense que les générations futures, quand une femme décidera d'avoir un enfant, elle pourra avoir accès à la PMA, et je l'espère, mon Dieu, parce que c'est un vrai choix, une vraie volonté, c'est la plus belle chose qu'on peut apporter à quelqu'un, et qu'elle ait un mec, qu'elle soit lesbienne, mais qu'elles aient un enfant, parce que ce sont des mères extraordinaires, parce que de toute façon, des femmes qui font cette démarche-là, je me dis que ça ne pourront... Enfin, après, c'est vraiment personnel, ça ne pourra être que des bonnes mères. Voilà, c'est mon avis à moi. Et donc, juste pour finir, c'est que j'ai l'impression que nous, on essuie les plâtres pour les prochaines générations et les générations passées. Ouais. C'est mes copines, moi, mes potes.
Et est-ce que tu as senti une pression sociétale? Ton entourage, ça allait, mais le fait que tu n'aies pas d'enfant, peut-être dans ta carrière...
Vraiment, je pense que je suis une chanceuse dans le sens où je vis à Paris. Et à Paris, on est beaucoup. Et on ne l'a pas senti. Moi, je ne l'ai pas senti énormément. Je l'ai senti, bien sûr, sur des petites choses. Notamment quand tu rencontres un mec et que tu as, effectivement, 38. Bon, là, en l'occurrence, j'avais les miens. Mais moi, je vois pour mes copines qui ont peut-être 39 ans. Et d'un seul coup, quand un mec rencontre une fille de 39 ans, oui, il y a une pression qui se fait parce que tu as cette épée de Damoclès de l'horloge biologique, quoi. Mais j'avoue que le côté Paris, par rapport à des copines qui sont célibataires dans le Sud... À plus de 35 ans, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que moi, mes potes qui ont des enfants, etc., ils ne vont pas ne pas m'inviter à un brunch parce que j'ai pas de mec. Oui. Mais les copines du Sud, ces gens, non, mais toi, t'as pas de mec, donc là, c'est un truc entre couples. Oui. Enfin, genre de choses comme ça, même dans le boulot, des remarques, etc. Et pourtant, je suis une chauvine vraiment de ma province, mais je ne peux que constater l'écart qu'il y a entre les deux.
Ouais.
Vraiment. Et le fait que moi, j'en ai moins souffert parce que ici, c'est commun.
Ouais. C'est commun. On t'a jamais dit, et toi, les enfants
Non. Mais après, je pense qu'il n'y a pas trop qui serait permis de me dire ça, mais j'attends que ça, quand on me dit ça, je vais leur sauter dessus. Non, franchement, j'avoue que j'ai jamais entendu quoi que ce soit là-dessus. Même si je sais qu'ils n'en pensaient pas moins, mais ils s'en sont... Si les langues se délient quand t'annonces que t'es enceinte et que là, oh là là, mon Dieu, on est soulagée. Ah bah maintenant, on peut te le dire, là, on est soulagée. Je suis contente que ça t'arrive, tu le mérites. Oui, mais tu le mérites, mais je ne suis pas moins méritante si je n'avais pas eu d'enfant. Je veux dire...
Comme si t'étais restée en apnée jusqu'à ce que finalement tu fasses le bon choix.
C'est exactement ça. C'était exactement ça.
C'est fou.
Ouais.
Et alors, comment t'as pris cette décision? Comment la maternité est arrivée au sein de ton couple?
Parce que j'ai rencontré la bonne personne.
Ouais.
Ouais. Parce que je me suis dit, c'est lui. Le nombre de fois, on se dit, là, je ne l'imagine pas comme papa. Là, pour une fois, je l'imaginais comme papa. Et puis, pour moi, c'était le plus important, au sens où, même si on ne reste pas ensemble toute une vie, moi, j'espère qu'on restera ensemble toute notre vie, mais c'est possible. On se sépare un jour, et ça serait un merveilleux papa. Et voilà. Et ça, je ne pouvais pas le dire à tous mes ex. Mais en tout cas, lui, c'était plus que les autres. Ah ouais. Lui, je me suis dit, lui, ça... Ah non, ça serait... Je me souviens, le jour où je lui ai annoncé que j'étais enceinte, et je lui ai dit, moi, je ne veux pas allaiter. Je lui ai dit tout de suite, alors que c'était absolument pas, je ne sais pas pourquoi je l'ai sorti ça comme ça, c'était pas le sujet. Il fumait une cigarette à la fenêtre, il m'a dit « Non, mais t'as raison, ça fait des gens bizarres. » Et je me suis dit, en fait, cette réponse, elle est tellement farfelue. Et puis en y réfléchissant, il m'a dit « Mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. » Je me suis dit, en fait, un mec qui est capable de ne pas me mettre la pression, qui m'aime comme je suis, qui répond à un truc à ce grain de folie aussi, non, il sera sera un papa incroyable. Et puis, c'est, je me suis pas trompée.
Ouais. Et c'était un projet ou c'était une grossesse surprise
Non, c'était un projet, les deux. C'était un projet surprise. Ouais. Voilà.
Du fait que ce soit sur le tard, ça n'a pas été plus compliqué de tomber enceinte.
Pas du tout, du tout. C'est là où c'était la surprise.
D'accord. Ça arrivait vite. Très dès que vous avez pris la décision.
Très très vite. Ouais. Bah, souvent on dit attention, il faudra du temps, etc. Et je sais parce que je sais à quel point pour certains ça l'est. Et c'est difficile d'ailleurs d'annoncer des copines qui essayent depuis des années que toi c'est arrivé tout de suite.
Ouais.
C'est compliqué, je sais que ça peut peiner des copines célibataires et ça peut peiner des copines qui ont des vrais désirs d'enfant qui n'y arrivent pas. Même si on doit penser à soi, moi, je ne peux pas ne pas penser aux autres quand je leur annonce. Il y a des copines, quand j'ai annoncé, je ne me suis pas répandue en « Waouh, je suis heureuse », etc.
Ouais.
Voilà, j'ai été, je pense qu'à notre âge, il faut avoir la décence de respecter aussi la douleur de chacun, parce que c'est un âge compliqué, l'approche de la quarantaine, par rapport à son désir de maternité.
Mmh.
Voilà. Je pense que quand tu annonces à une copine de 30 ans que tu es enceinte, c'est pas la même, et qui n'a pas d'enfant, c'est pas la même chose que de l'annoncer à une autre qui a 39.
Voilà. Parce que l'horloge, toujours cette horloge.
Toujours cette horloge.
Ouais. C'est dingue.
Ouais, et qui fait qu'en plus, quand on a 35 ans, moi jamais je me serais pensé que j'allais penser à ce genre de choses.
Mmh.
Voilà. Et après, on y pense, parce que malheureusement, ça me rattrape.
Et alors, comment s'est passée cette première grossesse? Cette grossesse, je ne sais pas si t'en
veux d'autres. Je ne crois pas. Il ne faut jamais dire... Enfin, si, il y en a qui peuvent dire « je n'en veux pas d'autres ». Moi, je ne sais pas encore. Mais je pense que ça n'aura pas de frères et sœurs. Parce que la vie, parce que Paris aussi, parce que tout ce dont on a parlé, tu vois, aussi les petits apparts, les petits machins. C'est compliqué d'avoir deux enfants. C'est plus compliqué d'avoir deux enfants à Paris quand tu n'as pas tes parents à côté que deux enfants à Paris dans une immense villa avec toute ta famille à côté, des babysitters, des machins, etc.
C'est sûr. Oui.
Moi, j'ai toujours pas de crèche, donc je ne sais même pas comment. Non, mais... c'est pour ça que d'ailleurs, on en parle beaucoup dans le livre, mais les mamans solo, pour nous, c'est, on le dit dans le bouquin, on dit, mais on vous bénit. Alors, je dis, mais comment elles font? Parce que c'est tellement compliqué, c'est tellement de questionnements. Vraiment, donc c'est pour ça, deux, on verra. Mais, et la grossesse, c'est plutôt bien passé, parce que... quand je vois la difficulté aussi de certaines grossesses autour de nous, je ne peux vraiment pas me plaindre. Voilà, moi, j'avais juste un très gros bébé, qu'ils avaient estimé à 4,6 kg. Donc, j'ai été provoquée à 8 mois et demi. Et au final, il ne faisait que 3,6 kg. Donc, ça allait très bien. Mais bon, à 8 mois et demi, peut-être qu'à 9 mois, elle aurait fait 4 kg. Le père faisait 5 kg. Hein, c'est sûr que... Et grosse douleur intercostale parce qu'elle a dû décider de mettre ses longues jambes sous mes côtes pendant 3 ou 4 mois. Ça a été un enfer pour moi. Après, les maux de grossesse qui font que, mon Dieu, on a le droit de se plaindre. Et le postpartum aussi qui fait qu'on a le droit de se plaindre. Parce qu'on ne prépare pas assez à ça. C'est pour ça qu'on en parle dans le bouquin et qu'on a envie d'en reparler aussi dans le prochain livre. Parce qu'on pense déjà à un prochain.
Ouais.
Et ça, moi, je trouve qu'on ne le prépare pas du tout.
Mmh. Toi, tu l'as vécu comment, ton postpartum?
Alors, j'ai pas fait de dépression postpartum, de baby blues, etc. Je pense que j'ai été fragilisée de par les hormones. Mmh. Il y avait des choses auxquelles je n'étais pas préparée, des choses toutes bêtes. C'est-à-dire que moi, je veux bien faire 4 séances sur le périnée, le fonctionnement du périnée avec des schémas, mais expliquez-moi déjà que je vais saigner après. Pendant un mois, j'ai saigné sans comprendre si c'était normal ou pas, sans qu'on m'explique ce que je pouvais faire pour calmer les douleurs, des déchirements, des choses comme ça.
Ouais.
C'est fou. Même les copines n'en avaient jamais parlé.
Mm.
C'est un truc de fou, quoi.
On est dans un tabou.
On est dans un tabou, mais en plus, on est des... Comment dire, je ne vais pas parler de mutilation, ce n'est pas le terme, mais notre corps est... On est passé dans une moissonneuse batteuse, quoi. Donc, mais ça, qu'on nous le dise, qu'on nous explique, et surtout qu'on nous protège, quoi.
Oui.
Donc, Alors moi, par exemple, je suis sortie de l'hôpital, comme toutes les femmes aujourd'hui, au bout de 3 jours, à part celles qui ont fait fond des césariennes. Je trouve vraiment que c'est trop peu. Après, c'est mon avis. Ah ouais. Mais un jour de plus, vraiment, c'est nécessaire. Moi, je ne voulais pas partir. Pourtant, j'étais bien, il n'y a pas de souci. Mais j'ai sorti un bébé de 3,5 kg de mon vagin. Je suis fragile. Et là, je voudrais juste qu'on fasse attention à moi et de me reposer un peu. On m'a parlé de ce qui se passait beaucoup dans les pays nordiques où les femmes étaient beaucoup plus prises en charge. Elles pouvaient être alitées des fois pendant 10 jours avec une aide, vraiment 15 jours, une aide. On va l'aider par rapport au bébé pour qu'elle se repose, qu'elle reste allongée. Chez nous, être allongée après un accouchement, ça n'existe plus. Tu dois être jolie, tu dois être mince, tu dois être ravie que tout le monde passe à la maison voir le bébé alors que toi, tu es assis sur ta chaise, t'en peux plus tellement tu souffres. Et ça, il faut qu'il y ait vraiment un gros changement là-dessus. Et puis qu'on se le dise entre nous aussi, entre filles. Je pense que ça manque de bienveillance, vraiment. Moi, la prochaine fois que je vais chez une copine qui a accouché, c'est « va te reposer, va dormir, je m'occupe du bébé si tu veux ». Tu vois, faut qu'on soit solidaires, quoi.
Et du coup, t'as pas allaité, comme tu l'avais décidé?
Non. Alors, j'aurais pu changer d'avis, mais c'était vraiment quelque chose de très naturel en moi. Je savais que j'avais pas du tout d'envie du rapport à l'allaitement, mais alors vraiment avec une certitude qui a pas du tout été chamboulée. Après, je sais qu'il y en a dont les certitudes sont chamboulées après l'accouchement, ce que je peux comprendre vraiment. Mais alors, moi, pas du tout. Et j'ai aucun regret par rapport à ça. En plus, ça a impliqué à 50-50 mon mec. Ce qui a beaucoup rapproché mon mec du bébé aussi. Parce que vraiment, nous, on fait 50-50. Mais sur les couches, sur les biberons, sur les nuits, tout 50-50.
T'as pas eu de remarques par rapport à ça, au fait de pas allaiter?
Non, je pense que...
Pareil.
Non, les gens n'ont pas trop osé. Non, moi, c'est en plus, je crois que je l'ai toujours dit que je ne voulais pas allaiter. Et j'ai déjà eu des discussions, des débats bien avant d'être enceinte. Ou surtout, moi, en plus, je suis pour l'aide aux femmes qui veulent allaiter. C'est-à-dire que vraiment, je suis une personne qui veut vraiment qu'on ait le choix. Et quand une femme a décidé qu'elle allaiterait, même sur le tard, elle fait ce qu'elle veut. Vraiment, faites ce que vous voulez, quoi. Vraiment. C'est-à-dire, je veux pas qu'elles soient mal à l'aise si elles ont envie d'allaiter, comme pas de réflexion si t'as pas envie d'allaiter, en fait. C'est chacun son choix. En fait, c'est quelque chose de très, très, très personnel, quoi. Et quand je vois les hôpitaux qui ne donnent pas le cachet contre les montées de lait, qui vont aussi pousser, faites la tétée d'accueil. J'ai des copines qui sont... Puis t'as une culpabilité sur pattes quand tu viens d'accoucher. Enfin, je veux dire, quand on te met ton petit bébé au sein en disant « Mais non, essayez !» Mais non, en fait. Et tu peux pas dire non parce que t'as l'impression d'être une mauvaise mère, t'as toutes les hormones.
Oui, tu viens de rencontrer...
Exactement. Je peux pas refuser mon corps, c'est pas possible. Je suis un monstre si je fais ça. Et me dire qu'on peut faire penser à une mère qui vient d'accoucher que c'est un monstre, justement, si elle ne fait pas quelque chose qu'elle ne sent pas au fond d'elle, ça m'ulcère. Ah non, moi, ça me rend dingue.
Toi, ils ne t'ont pas du tout poussé
Pas du tout.
Dans la maternité, tu les avais prévenus en amont ou comment ça s'est
J'avais dit oui, tout de suite, mais toujours avec beaucoup de naturel, en disant « Ah non, mais moi, je n'allaiterai pas, donc est-ce que vous avez le cachet, machin ?»« Oui, pas de souci, on vous le donnera. » J'ai dû le réclamer.
D'accord.
Et bien sûr, d'eux-mêmes, ils ne vont pas dire « Est-ce que vous voulez le cacher ?» Non, c'est... Et puis, voilà, je pense que ça va dépendre aussi de la sage-femme que tu as. Tu tombes sur une sage-femme qui veut te pousser le bébé, comme ma copine a eu il y a 6 mois, qui lui a posé le bébé au sein, en lui mettant la tête contre le sein, en l'écrasant, etc. Et elle a pleuré, parce qu'elle était... Et c'était il y a 6 mois. Parce qu'elle a été chamboulée, qu'elle ne savait pas si elle voulait ou pas. Et qu'elle n'y arrivait pas, et oh, c'est vous faites mal et tout. Et elle en a parlé à une autre sage-femme qui lui a dit non, mais c'est pas possible. Ça. Mais c'est vrai qu'on a eu plusieurs retours contre cette dame, à l'ancienne, qui va absolument pousser les mères. Et ça, c'est tous les jours, j'entends des filles qui me racontent ça. Tu te dis qu'aujourd'hui, c'est obligé de mâcher des feuilles de choux pour pas avoir de montée de lait, alors qu'elles ont mal, qu'elles souffrent. qu'elles sont chamboulées. Que... Enfin, je ne sais pas, ça me paraît démentiel aujourd'hui.
Mmh. Et alors, est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman ?
Bon, à l'aise. Après, le fait que ce soit un gros bébé, j'avoue que je le sentais un peu moins fragile que des petits bébés. Je disais toujours, tu vois, moi, il était déjà tout joufflu, tout rose, mm-hmm. pas de petites choses violettes, ta porte cassée. Donc, je pense que ça a joué dans le fait que j'étais moins paniquée. Après, les pressions, les pensées un peu étranges qui peuvent te venir, tiens, je peux le cogner, je pourrais lâcher, il pourrait tomber tout seul. Ça, j'en ai eu. Oui. Et d'en parler des fois avec des filles en disant, non, mais on n'est pas folle, on n'est pas des mauvaises mères, parce que d'un seul coup, on s'est dit, oh, mon Dieu, mais je pourrais lâcher la poussette et la poussette partirait comme ça. Et on a des trucs qui viennent dans nos têtes, on ne le fait pas. Et c'est nos pensées qui ne nous rendent pas des mauvaises mères, c'est juste qu'on est, un peu perturbés. Mmh.
Voilà. La fatigue, les nuits.
Fatigue, les nuits, le manque de sommeil, le fait de ne pas trouver non plus sa place, d'apprendre à connaître cette chose qu'on ne connaît pas. Quoi. Mmh. Quand on l'a posée sur le ventre, je me suis dit enchantée à cette personne inconnue. Voilà, qui.
Ouais, t'as pas eu cette vague d'amour dont on parle tout le temps, qu'on voit dans les films.
Non. Non, non. Alors, bien sûr, je l'aime, évidemment. Oui, la vague d'amour, oui, mais après, non, je te connais pas, en fait. Mm. Je vais apprendre à te connaître. Et ça, il a fallu du temps pour apprendre. Et maintenant, je commence à la 15 mois et je commence à apprendre à la connaître.
Ouais.
Ouais. Mm. Ouais. Non, j'ai mis du temps pour apprendre à la connaître. Bon, après, je l'ai aimée tout de suite, mais j'ai pas eu, oui, effectivement, ce côté je suis contre moi, c'est elle, c'est moi. Non, c'est mon bébé, il sort de mon corps, mais je vais mettre du temps. Mmh. Après, il y avait quelque chose qui m'avait chamboulée, c'est de réaliser qu'en fait, c'était une partie de mon corps. Il y a une phrase dont je me suis toujours souvenue et je ne l'ai jamais dit à quelqu'un. Mais à la maternité, à un moment, elle me dit, bon, vous allez nettoyer la choupie, moi je dis la choupie. De la petite, donc voilà, son vagin, et elle me dit, vous allez voir, elle a des pertes blanches, mais en fait, ce sont les vôtres.
Ah oui.
Et de là, te dire, en fait, donc c'est une extension de mon corps, puisqu'en fait, ce qu'elle va perdre, elle, c'est les miens, en fait.
Oui.
Et ça, moi, je me suis dit, ah oui, donc c'est vraiment, c'est mon corps. Mm. C'est une partie de mon corps. Et ça, je sais que cette phrase qui part anodine, elle a trotté dans ma tête. Tu vois, je me suis dit, ah ouais, quand même. Donc, c'est moi, c'est une partie de moi, ça. Et pff, maintenant, j'en suis complètement folle. Bon, j'ai été folle depuis le début, mais je suis complètement gaga.
Et du coup, t'as vu ta maman tout de suite c'est toi qui allais dans le sud ou,
Ah non, c'est elle qui est montée.
Elle est montée.
Ah ben non, mais c'est pas celle qui est montée. C'est-à-dire qu'elle était moi, elle avait prévu. Elle est montée pendant 3 jours, pendant tout le long de l'accouchement. Mais j'ai accouché en 3 jours.
Ah oui ?
Ah oui, ben, elle a provoqué l'accouchement. Donc, je suis rentrée le jeudi matin, j'ai accouché le samedi après-midi. Avec les contractions le jeudi. C'est-à-dire que moi, le jeudi, quand les contractions ont été douloureuses et espacées, enfin, douloureuses et régulières, ouais. Et que j'étais à 2,5, ben là, la sage-femme a dit, bon, ben c'est bon, donc il était, je ne sais plus, dans la nuit, vers 4 heures du mat, le jeudi, elle me dit, ben c'est bon, là, ça va partir, c'est bon. C'était pas bon, ça s'est arrêté, les contractions ont continué, mais ça a arrêté de s'ouvrir jusqu'au samedi après-midi. Ah ouais, voilà, j'ai passé 3 jours, moi, d'enfer. Enfin, d'enfer. Après, il y a la péridurale, donc heureusement...
Tu l'as eu au bout de combien de temps, la péridurale ?
Longtemps, j'ai eu le vendredi dans la nuit, je crois. Dans la nuit. Ouais, dans la nuit du vendredi à samedi. Donc, j'ai passé quand même plus de 24 heures sans rien. Plus de 24 heures de contraction. Ouais.
Tu t'étais préparée à l'accouchement?
Oui, j'avais fait les cours de préparation, mais je n'étais pas du tout prête parce qu'en fait, je vomissais tout le temps. Et non, je n'étais pas prête. Grâce aux cours. Mais je pense que je m'étais préparée, moi, psychologiquement. En fait, depuis tellement longtemps, je me dis que ça va être l'horreur. Je pense que comme je m'étais préparée à l'enfer, et ben non, mais c'est vrai, c'était moins pire que ce que j'imaginais.
D'accord.
C'est fou. Et je pense qu'en fait, quand t'es pas préparée psychologiquement, ça doit être beaucoup plus dur. Moi, je pensais vraiment que... Ah, moi, je lui pensais au pire. De toute façon, j'avais dit, je sais, mais ça va être horrible, machin et tout. Eh ben non, finalement, même en 3 jours, ça a été. Ça reste un très bon souvenir. Mais parce que j'ai pas eu de complications. Mmh. Voilà. Ceux qui ont des complications, c'est autre chose.
Et t'avais discuté de tout ça, d'ailleurs, avec ta maman, tout ce qui était accouchement, postpartum
Non. Alors, postpartum, pas du tout. Ouais. C'est un sujet qu'on n'aborde pas du tout. Accouchement, si on en avait parlé, parce qu'elle elle m'avait dit une phrase comme « Maman, quand on m'a sorti placenta, j'ai l'impression qu'on m'ouvrait le ventre, c'était bien pire que l'accouchement. » Bon, un placenta de jumeau, en plus, j'imagine, ça va être quand même... Elle m'a dit « Oui, elle était montée sur le ventre pour me faire sortir et tout. Mmh. » J'avais des images, mon Dieu. Et puis en plus, oui, j'avais vu l'état de son ventre après une grossesse à 17 ans de jumelles. En plus, non, des bonnes jumelles, puisqu'elle avait 6 kilos de bébé. On faisait 2,8 et 3,2 pour des jumeaux à terme.
Ah oui.
Donc c'est quand même rare. Et puis à 17 ans, quand on a la peau bien ferme, etc., elle, malheureusement, voilà, vraiment, ça a été dur d'avoir 6 kilos de bébé. Mm. Donc de ça, on en avait beaucoup parlé. Mais du postpartum, pas du tout. Mais avec aucune de mes copines. Vraiment, c'est un truc... le mot hémorroïde, on n'a jamais prononcé. Il y a des mots qui sont d'un espèce d'un tabou. Mmh. On n'en parle pas, quoi. Vraiment.
C'est secret défense.
Mais c'est incroyable, quoi. Même si... il y a eu ce qu'elle fait en Foresti. Il y a des choses comme ça qui ont fait que... Je trouve que la parole s'est libérée. Effectivement, il y a des podcasts, il y a des livres. Mais il y a des choses encore... Non, on n'en parle pas, mais moi, je ne savais même pas qu'il y avait ces grosses serviettes hygiéniques. Je te jure, quand on m'a montré ça, tu te dis, putain, mais j'ai 39 ans, on me pose ça, je ne sais même pas pourquoi vous me donnez ça. Mais c'est quand même surréaliste, quoi. Pour ceux qui nous écoutent, c'est pour le sang, après les pertes de sang, après l'accouchement. Maintenant, je sais.
Et donc, tu disais, ta maman est arrivée direct.
En fait, ma mère et ma sœur nous ont harcelé le message. La première chose qu'elles m'ont fait, c'est qu'elle m'a crié dessus parce qu'elle était restée 5 heures sans nouvelles. Il faut savoir que ma sœur jumelle, on est très proche.
Ouais.
Donc, elle a fait une crise, je pense, d'apoplexie pendant mon accouchement. Mais vraiment, s'il y avait une personne que je n'aurais pas voulu à mon accouchement, c'est elle, parce que je pense qu'elle aurait crié après les infirmières, elle aurait fait un scandale dans l'hôpital parce que j'avais pas telle ou telle chose. On n'a plus de notion de sens des proportions quand on est. Une jumelle, c'est exactement comme son enfant. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on est protecteur exactement comme son enfant.
D'accord.
Donc, faut pas toucher à ma sœur. Et je me fais du souci pour ma sœur. Là, elle va accoucher dans 2 mois et demi, j'ai appelé l'hôpital la semaine dernière pour savoir si je pouvais venir. Et là, pour l'instant, ils m'ont dit non. Même pour les visites après, à cause du Covid. Et ma soeur m'a dit, mais pourquoi tu les as appelés? Je dis, non, mais parce que je vais te fixer. Et là, mais je suis tellement malheureuse de ne pas pouvoir même aller lui rendre visite à l'hôpital après l'accouchement. On ne peut pas, il n'y a une personne que son compagnon. Et encore, j'espère qu'il pourra venir en salle d'accouchement. Logiquement, oui, pour le moment.
Donc, oui, toi, ta maman... Elle t'a beaucoup aidée
avec le bébé, non. En revanche, étant donné qu'elle est repartie tout de suite, elle est dans le sud.
D'accord.
Donc, non, pas du tout. Elle a été là vraiment pour lui faire des câlins. mais avec moi, non. Et il n'y a personne qui nous aide, de toute façon. Il n'y a personne qui... Voilà, à part notre compagnon et papa, qui est dans le même état psychologique, pas physique, mais qui est tout chamboulé aussi, que nous. On est quand même seul, quoi. On est démunis. Heureusement, il y a la sage-femme qui vient quelques fois après l'accouchement pour voir si tout va bien, mais on est quand même livré à nous-mêmes, quoi. Donc, même si, j'avais téléphoné, mais c'est plus pour savoir comment va le bébé. On n'est pas trop sûr comment va la mère, en fait. Mmh. Voilà. Donc, mais après, ça allait bien quand même. J'ai pas eu de complications, j'ai pas eu de problèmes, mais je pense à toutes celles qui en ont, quoi, qui se sentent toutes seules après avoir accouché. Mmh. Et maintenant, elle est plus... Oui, maintenant, il n'y a plus que ma puce qui compte, quoi. Mais après, comme c'est la chose la plus importante pour moi, maintenant, j'accepte que je ne sois plus la chose la plus importante pour ma mère, quoi.
Non. Ouais. Et alors, donc, ta sœur et toi, vous venez de sortir un livre donc, qui s'appelle « La mère parfaite est une connasse ».
Ouais.
Comment est venue cette idée? Tu me disais que vous n'aviez pas d'enfant au moment où vous avez réfléchi à ce livre. Parce que vous voyez déjà toutes les deux tout ce qui se passait autour de la maternité.
Tout ce qui se passait autour de nous, en fait, quand on a écrit « La femme parfaite est une connasse », c'était une volonté de déculpabiliser la femme. C'était, l'idée était de dire aux autres filles « Vous n'êtes pas seules ». Parce que nous, en tant que jumelles, on savait qu'on n'était pas seules. Mmh. On savait qu'il y avait quelqu'un d'autre qui vivait les mêmes choses en même temps que nous. Et on avait envie de dire « On va prendre tout ça avec autodérision ». On n'est pas parfaite, on ne le sera pas, on ne le sera jamais, mais on est toutes dans la même galère. Mmh. Et on avait déjà des copines qui commençaient à être enceintes, qui nous disaient des trucs qu'on avait envie de mettre dans le livre, et je me souviendrai toujours de cette de ma meilleure amie Céline, je vais la outer, qui était allée chez la gynéco et qui m'avait raconté ça, en me disant « Bon, je me suis pesée, je suis allée chez la gynéco, je me suis pesée, elle était donc enceinte, bon, j'ai menti, j'ai dit un kilo de moins, mais parce que j'avais un collier un peu lourd. » J'ai dit, mais pourquoi mentir à la gynéco, là? C'est pour être par rapport à la santé du bébé. Pourquoi tu vas mentir sur... Et je me suis dit, mais en fait, on est vraiment des cas, quoi. Mais on est toutes pareilles, on pourra toutes mentir un petit peu si on veut faire la coquette. Et voilà, quoi. Et ça, c'était un exemple parmi tant d'autres. Il y a tellement de choses qu'on avait envie de mettre dedans, tellement de trucs sur les enfants insupportables, sur les enfants cons, sur le fait que voilà, on n'a pas toujours les enfants qu'on mérite non plus, que tous les enfants ne sont pas beaux, les bébés. Comment réagir devant un bébé laid? Ça, on l'avait mis dans « La mère parfaite, dans la femme parfaite est une connasse ». On avait un chapitre « Comment réagir devant un bébé laid ». Tous les enfants sont beaux, c'est fou. Des enfants qui sont foncièrement laids, quoi. Mmh. Ça ne veut pas dire que ça ne fera pas des adultes beaux. Hein.
Oui, oui.
Et réciproquement, ce qu'on appelle la jurisprudence Macaulay-Culkin. Magnifique enfant. Même si maintenant, je me trouve beaucoup plus mignon qu'avant, parce qu'il y a un débat interne avec ma sœur. Mais donc, voilà, on a eu envie d'écrire ce livre en se disant on va attendre d'être légitime, on va attendre d'être mère, de voir si déjà nous, on pense toujours exactement la même chose.
Ouais, parce que ça, c'était combien de temps quand vous avez lu cette idée?
Ah non, ça, c'est... Quand on a écrit « La femme parfaite est une connasse », on a mis une page en mettant dedans, donc c'était en 2012, on a écrit « La mère parfaite est une connasse », c'était un nom d'un chapitre, et on a dit, on prévient notre éditeur, on va écrire ce bouquin avec un PS de l'éditeur « Vendez déjà celui-là ». Et donc, on savait déjà, on avait annoncé dans le bouquin, c'était donc en 2012, quoi.
Ah oui.
Ouais, on n'avait qu'une envie, c'était de l'écrire, celui-ci, parce que, en fait, qu'est-ce qu'il y a de plus important que déculpabiliser une mère? C'est-à-dire qu'en fait, déjà, quand je parlais de culpabilité sur pattes, c'est qu'on se sent coupable de tout, en tant que femme,
oui,
mais alors en tant que mère, mais oui, tout. On n'est pas assez belle, on n'est pas assez mince, assez intelligente, assez... et alors en tant que mère, c'est pire. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on est coupable de tout. Et j'ai l'impression que culpabiliser la mère, vous êtes trop jeune, vous êtes trop vieille, vous êtes pas assez bienveillante, vous êtes trop autoritaire, pas assez autoritaire. Je veux dire, en fait, on fait rien de bien. Donc, on va déculpabiliser toutes ces mères en disant, de toute façon, votre enfant finira chez un psy à vous critiquer. Donc, partons de là, offrons-lui l'amour, le plus d'amour possible. Et puis après, si t'arrives à le garder en vie, lui donner beaucoup d'amour. Après, ouais. Nous, c'est notre seule règle. Hein. Après, le reste, tu fais comme tu peux, quoi.
Donc, vous avez attendu 8 ans
ouais.
pour être légitime et ouais. écrire ce bouquin.
Ouais.
C'est fou.
8 ans, ouais. Et en plus, notre éditeur a voulu qu'on l'écrive. Et non, elle a dit non. Je me souviens, le deuxième, elle a dit, bah, vous pouvez l'écrire. Oh, non, mais c'est pas grave. Si, si, si. On va l'écrire. On va l'écrire quand on sera enceinte. Mais il y a une page, c'est écrit noir sur blanc hein, en 2012. Donc, ah ouais, mais on est tellement contents de l'avoir fait.
Et alors, est-ce que tu comprends mieux, toi, maintenant qu'il y a eu un bébé, pourquoi ton amie avait menti sur ses kilos?
Oui. Franchement, oui. On le dit dedans, d'ailleurs. Tu arrêtes de compter en termes de poids. Les deux dernières semaines, c'est comme si elle n'existait pas. Tu ne te baisses plus. Tiens.
Bon, j'ai et puis, il y a une pression aussi.
Ah, mais une pression. Mais moi, c'est pour ça que je le dis toujours. Moi, j'ai pris 25 kilos. Mais quand le gynéco m'a dit, non, ce qui serait bien, c'est 9 kilos. Dans le livre, on dit, mais pour qui? Pour un chat? Qui prend 9 kilos, en fait? Je viens même déjà l'hiver avec les raclettes, j'en prends 5. Donc, non, mais ça, j'en ai pris 25. Et franchement, c'est pas grave. Qui, en fait, qui va les perdre après ? Mmh. C'est moi. Donc, une réflexion. Et j'ai une copine, Maya d'ailleurs, qui était allée, je vais dire les noms de mes copines en les invitant, qui était allée chez Gynéco et que le gynéco lui avait dit « Non, ça serait bien là de mettre la pédale un petit peu sur le poids là, pense un peu au papa. Oh, » ben, sérieux, penser au papa ? Non, mais c'était resté. Mais, ah ouais, non, ça, je trouve ça surréaliste. Ah non, non, faut surtout pas culpabiliser. Bah, vraiment, faut arrêter avec ça, quoi. De toute façon, moi, j'ai galéré après pour les perdre. Mais après, c'est moi qui galère pour les perdre. Et puis même, quand bien même, je les aurais pas perdus, je les ai pas tous perdus déjà. Parce que le corps met du temps. Après, c'est compliqué, quoi. C'est comme à chaque fois qu'on voit à la télé des filles qui sortent de l'hôpital avec le ventre plat, qu'on nous dise une bonne fois pour toutes, quand on sort de l'hôpital, on a un ventre de femme enceinte.
Mais oui.
Un ventre rond de femme enceinte. Moi, je regarde la photo, on dirait que je suis enceinte de 6 mois. Mm. Et ça, ça peut durer des semaines, des mois. Pas de pression, ça reviendra, mais qu'on ne nous fasse pas croire que... Après, il y en a toujours. Moi, sur Insta, j'avais une meuf qui a dit « Je sors de l'hôpital, je rentre de nouveau dans mon 36. » Déjà, je ne rentrais pas dans un 36 avant. Je rentrais dans un 36 après. Mais calmons-nous là-dessus. Et puis surtout, personne n'a le droit de faire la moindre réflexion sur le poids. Mais sérieusement, quoi. Ah non, mais... Et en revanche, maintenant, tu as des femmes qui vont commencer à faire déculpabiliser. Là, je voyais ça s'appelle Katy Perry.
Oui.
Mais merci, quoi. C'est une femme, et elle est magnifique. C'est une femme, une vraie, elle a pris un peu de poids, elle a pris du poids pendant sa grossesse, et puis elle le perdra ou pas après, mais c'est bon, quoi.
Elle a montré, oui, en basique. Si,
exactement. Ouais, ouais, juste après, on voit avec le tire-lait, etc. Mais exactement, quoi. Faut arrêter de nous faire croire que tu vas... Non. Non, mais je pense qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Et tant mieux, vraiment.
Et alors, du coup, quand vous êtes sentie légitime, ta sœur et toi, donc toi avec un enfant et elle, finalement, sans enfant, à ce moment-là.
Ouais. Au début de l'écriture, la fin de l'écriture, elle est enceinte.
Ouais. Comment vous avez démarré l'écriture
Alors,
de
déjà,
ce manuel un peu de survie
Ouais, voilà, c'est ça, c'est le guide de survie pour nous. Mais déjà, on s'est dit quand même que c'était, en discutant, un sujet touchy. C'est-à-dire qu'on peut être attaqué de toutes parts. Oui. Dès qu'on touche aux enfants, les gens perdent leur humour. Vraiment, on n'a pas le droit de rigoler avec ça. Alors que, non, on a décidé d'en rire, quoi. C'est-à-dire, vraiment, on peut se moquer. Déjà, ce serait bien de se moquer de nous-mêmes, de se moquer des autres. Là, par exemple, on a fait un post sur une des phrases pour vous montrer un peu ce qu'il y a dans le livre. C'est une citation qui dit « Non, votre enfant n'est pas obligatoirement en avance parce qu'il est en échec scolaire, il est peut-être tout simplement con. » Et donc, discuter avec une copine qui dit « Non, mais tu te rends compte, tu parles de l'échec scolaire, il y en a vraiment qui sont en souffrance, tu ne peux pas dire qu'ils sont cons. » Je dis « Non, 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 on va arrêter. On ne se justifiera jamais de ce genre de vanne. » C'est-à-dire que c'est une vanne et qu'on pense déjà à moitié parce que franchement, quand tu écoutes les parents, surtout à Paris, je trouve, quand tu les écoutes, leurs enfants sont toujours en avance, sont toujours des petits génies. J'ai une copine qui travaille dans un magasin de jouets, et elle me dit que 80% des parents viennent en disant « Non, mais mon enfant est plutôt en avance. » Arrêtez, en fait, c'est pas tous des génies. Voilà, et puis il faut arrêter de se mettre de la pression. Je veux qu'il fasse du violon, qu'il apprenne le russe et tout. Voilà. On va se calmer un peu. Déjà, s'il peut être heureux, votre gamin, c'est déjà énorme. Après, c'est ma vision du truc et celle de ma soeur, quoi. Mais on s'est rendu compte quand même que c'était un sujet plus touchy que les autres. Donc, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on décide de ne pas traiter de certains thèmes ? Ou alors, on va se lâcher et puis tout le monde en prendra pour son grade et puis on a choisi l'option 2, quoi. Surtout qu'en plus, on n'est pas là pour... pour dire telle chose est bien, telle chose est pas bien. Je veux dire, par exemple, sur l'allaitement, on veut défendre les femmes qui allaitent comme les femmes qui n'allaitent pas.
Oui.
Non, elle est vraiment choisissez, quoi, c'est tout. Et personne n'a à vous dicter quoi que ce soit. Donc, l'idée, c'était de répertorier tout ce qu'on avait envie de dire.
Donc, c'est des choses que vous avez entendues, c'est des choses que vous avez...
Les choses, la plupart, c'est des choses vécues. Franchement, ouais, c'est okay. Vécu. C'est du vécu la plupart du temps... Ouais, des choses, les copines, les discussions, l'expérience, les sujets qu'on a vraiment envie d'aborder. Là, on parlait du poids, on parlait... Tu vois, ça, c'est des choses... moi, dès que je suis tombée enceinte et que je vois les pressions que se mettent les mères par rapport au poids, mais ça, je me dis, mais ça, on le met tout de suite dans le livre, quoi. Mmh. On va les déculpabiliser tout de suite. Je te jure, même des copines qui n'osaient pas me dire comment elles avaient pris de kilos pendant leur grossesse ou qui mentaient à moi. Mmh. Ben, non, mais arrête, ne me dis pas 13. Chérie, j'ai bien vu que tu n'avais pas pris que 13 kilos. Et quand bien même, tu vois, pas à moi quand même. Et puis, c'est pas grave, quoi. Mmh. Et l'idée, c'était chacune de notre côté de se proposer des thèmes. Et après, on écrit chacune de notre côté. Et okay. On essaye de faire rire l'autre. C'est-à-dire, après, on lui envoie le thème. Et selon si elle me met ha-ha-ha-ha-ha-ha, des trucs comme ça, des petites annotations sur le côté, il y a des choses que je peux enlever, des choses, bien sûr, si je la fais rire, je garde tout, quoi. Le but, c'est vraiment de faire rire l'autre. Mmh. On a toujours travaillé comme ça, même sur les précédents livres. Mmh. Mmh. Et après, on va travailler sur le texte. Par exemple, moi, si j'ai travaillé sur un texte, ça me suffit sur un autre. On se les échange. Je rajoute des trucs, elle rajoute des trucs. Mmh. Et on travaille comme ça, sur un drive. Et après, on fait des séances à deux. Et ça, sur une deuxième partie. Enfin, une seconde partie de travail, quoi. Mmh. La première partie, c'est chacune de notre côté, en essayant de faire rigoler l'autre. Des fois, on lui dit « Lis ce que je t'ai envoyé ce matin, j'ai trop rigolé !» Et là, je fais « Ah, c'est trop con, machin, et tout !» Et hop, je retravaille dessus. Vraiment, c'est... Et après, je fais « Ouais, pas trop. Ah, je croyais que ça allait te faire rire, ça. » Mmh. Voilà, c'est... Alors, il y a des fois aussi, ma fille va me dire « Alors là, franchement, moi, je vois pas du tout où tu vas en venir. » Oui, eh ben écoute, moi, ça me tient à cœur. Mmh. Bon, bah, si ça te tient à cœur, vas-y, quoi. Mais alors, ce sera ton texte, quoi. Oh, oui, bah, c'est pas grave. Moi, j'ai besoin de dire ça, j'ai envie de le dire. Ben, moi, il y avait des trucs, par exemple, sur les mots de grossesse... Mmh. Où celui-ci, je me suis lâchée et ça m'a soulagée, le côté petit mot de grossesse. Non, c'est l'enfer sur terre, j'avais envie. Je crois que je venais d'accoucher, donc j'avais envie vraiment de me soulager aussi, quoi. Mm. Et voilà, mais ça a toujours été comme ça, en fait, dans notre façon de travailler, on a toujours bossé comme ça.
Et vous avez mis combien de temps, du coup, pour rédiger tout ce manuel?
Tout l'hiver dernier.
Parce qu'il y a vraiment tout y passe, quoi.
Ouais. Mm. Tout y passe, mais en même temps, on s'est rendu compte qu'il manquait aussi plein de choses et que ça va évoluer si notre éditeur nous suit, pour qu'on continue aussi dans l'âge. Parce que là, en fait, la moitié, c'est quand même la grossesse.
Ah oui, oui, là, c'est parti.
Alors, on est quand même plus sur la grossesse.
Grossesse et postpartum.
Et petite enfance, voilà, mais on est plus là-dessus. Ouais.
Ah oui, bah là, vous avez tout un panel de vie pour
continuer. C'est ce qu'on s'est dit avec ma sœur. Et elle, qui continue sa grossesse maintenant... me dit déjà, j'ai noté des trucs dont on n'a pas parlé. Oui. Elle m'a dit, j'ai 40 thèmes déjà pour la suite. Je dis, ok, d'accord. Bah, d'ailleurs, ce matin, je me suis dit, les poux. On n'a pas parlé des poux. Il y a des choses comme ça qui nous viennent et j'espère qu'il y aura une suite. Mais bon, on verra.
Et bah, de toute façon, on rentre tout de suite dans le sujet hein, avec le titre « La mère parfaite est une connasse
bah, ». Après, ce mot-là, nous, on vient du Sud, on l'a toujours dit, ce n'est pas un gros mot pour nous.
Ah oui, d'accord.
Ah non, non, non. Un jour, quelqu'un m'a dit « Ah, c'est vous la mère parfaite ? La femme parfaite est une salope ?» Je dis « Mais comment ? Ça va pas ? Salope, c'est un gros mot, mais pas du tout, quoi. » Puis c'est vulgaire, c'est nous, vraiment, on prône pas du tout les gros mots. Non, connasse, chez nous, c'est... Dans le Sud, c'est « Oh, connasse. Oh, connasse. » C'est un mot... Comment dire ouais, c'est une ponctuation, c'est un mot gentil, c'est pas une insulte.
D'accord.
Voilà. Okay. Même si, bon, ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Hein.
De toute façon, vous précisez direct que.
Comme elle n'existe pas, on n'insulte personne. Mmh. Voilà. Ça, c'était important pour nous, quoi. Parce qu'on ne veut pas faire partie de cette mode, en plus, qu'on a initiée, puisque le premier, on l'a écrit en 2012. De gros mots dans les titres, de vulgarité, parce que des fois, quand je lis des titres, bah justement, salope, machin et tout, mais alors, nous, on n'adhère pas du tout à ça, avec Anne-Sophie. Vraiment, moi, je cautionne absolument pas, quoi. L'idée, c'était pas de dire un gros mot pour choquer. D'ailleurs, notre éditeur ne le voulait pas, ce titre.
Ah, oui.
Ah non, non, le titre, au départ, sur la couverture, il y avait « La femme parfaite est une C » et les petits signes de colère, là, des dessins animés. Et nous, on dit, mais non, mais il faut arrêter, on va arrêter de faire les hypocrites, c'est connasse, c'est pas un mot, hein, c'est pas salope. Enfin, pour moi, j'arrive même pas à le dire, pour moi, c'est vulgaire, tu vois, salope. Et au final, ils ont accepté, ils me disent, non, mais ça passera jamais, personne n'achètera. Bon, 2 millions de ventes après, ils se rendent bien compte qu'on avait raison. Mmh. Et surtout que ça nous tenait à cœur, parce que le titre, tout début, on avait pensé à même Marilyn avait un gros cul. Tu vois, c'était, en fait, c'était vraiment sur arrêter, personne n'est parfait, les gars. Mmh. Voilà, c'était vraiment notre idée. Et après, sur le mot connasse, ouais, c'est un mot qui est resté. Puis Anne-Sophie faisait partie d'un, comme un humoriste, d'un regroupement d'humoristes avec Nadia Ross, Bélanger Krief et Christine Béroux qui s'appelait le Connasse Comedy Club.
D'accord.
Et voilà, elles faisaient chacune leur sketch. Comme elles étaient super copines, elles faisaient voilà, des représentations toutes les quatre. Et c'est pour ça qu'aussi, on s'était dit, tiens, le Connasse Comedy Club, la femme parfaite est une connasse. On a toute une connasse en nous. Oui, même toi, Jean-Claude, je crois que c'était leur baseline. Et voilà, c'était la suite de tout ça, quoi. Ouais.
Et alors, qu'est-ce que vous souhaitez apporter toutes les deux avec ce livre?
Je pense déjà de l'autodérision, vraiment. Parce que quand je dis autodérision, c'est parce qu'on rigole, mais on rigole aussi de nous-mêmes. Parce que franchement, en tant que mère, il vaut mieux en rire, déculpabiliser. Vraiment, c'est, pour nous, c'est le maître mot. Vous ne serez pas des mères parfaites. Et aujourd'hui, dans la société où, d'un seul coup, il faudrait être la perfection, vraiment la pédagogie bienveillante, laver les couches lavables, machin et tout. Faites ce que vous pouvez, quoi. Mmh. Les diktats qui font que d'un seul coup, il faudrait... Enfin, je dis d'un seul coup, c'est parce que je trouve que ça va à l'encontre. On parle des mères des années 80, les mères des années 60, 70 dans le livre. C'est que là, il y a un espèce de grand revirement où on devrait être tout au service de l'enfant et la mère doit être à son service. On doit tout faire parfaitement pour créer un petit monstre parfait qui parle beaucoup de langues, qui est brillant, qui est... Non, je pense qu'en fait, c'est beaucoup trop de pression. On n'y arrivera pas. Autant partir à défaitiste tout de suite et se dire que... Autant prendre du plaisir et faire ce qu'on peut, quoi. Et puis de la bienveillance les unes par rapport aux autres. Mmh. Vraiment. Et ça, c'est quelque chose, je pense, que je n'aurais pas eu personnellement avant d'être enceinte.
Ouais.
C'est-à-dire qu'avant, j'ai beaucoup de mal avec les enfants mal élevés, qui courent partout en hurlant et tout. Bon, ça n'a pas changé. C'est-à-dire que ça m'agace quand même. Mais maintenant, je regarde la mère. Et si je vois que la mère... me regarde avec cet air de « j'en peux plus les gars » ou « vraiment je suis désolée », mais j'ai qu'une envie, c'est de lui faire un câlin, lui dire « bah oui, ta petite elle hurle et tout, mais c'est pas du tout que t'es une mauvaise mère, c'est que... »
Il est pas mal élevé.
Il est pas mal élevé aussi, c'est que « pauvre puce, je vais t'aider quoi, tu vois ». Avant, c'est clair que je partais du principe que « non, je suis désolée, un enfant qui fait un caprice à manger par terre, c'est pas possible ». Bah maintenant, je me confronte à la réalité. C'est-à-dire que quand il est allongé par terre et qu'il hurle, bah, elle n'a que 15 mois. C'est compliqué d'avoir une éducation positive, etc. Non, bah, tu fais comme tu peux, quoi. Tu enjambes l'enfant, tu fais croire que ce n'est pas le tien, et puis tu pars. Non, mais voilà, on va arrêter. Et c'est pas si grave, quoi. Ça ne met pas de nous des mauvaises mères du tout, quoi. Et donc, voilà, cette bienveillance-là, ce regard de compassion... les unes par rapport aux autres, je pense dans un parc, la prochaine fois que vous verrez un enfant faire un caprice, regardez la maman, essayez d'être un peu compatissant, parce qu'elle en chie aussi, quoi. Enfin, je parle mal volontairement, mais pour essayer de faire comprendre ça, quoi, arrêtons d'être dur et de juger, quoi, autant rigoler et être bienveillante.
Ce que j'aime bien dans le livre, c'est que du coup, c'est pas du tout romancé, donc vous balancez les infos d'une page à une autre, donc voilà, c'est d'un sujet à l'autre assez vite, ce qui peut préparer justement à toute cette période.
Ah mais c'est le livre que j'aurais voulu lire en fait avant.
Oui.
J'avoue que on l'a écrit comme ça. On s'est dit voilà, quand on tombe enceinte, je pense que lire ça, on va apprendre plein de choses, on va rigoler beaucoup, on va se déculpabiliser, on va dédramatiser plein de situations. Et quand on a accouché, ça c'est par exemple quand on est enceinte, je pense aussi que ça soulage. Parce que franchement, on se dit, ah ouais, quand même, ah, personne ne m'a donné ce genre d'information, quoi. C'est quand même fou. Donc voilà, il faut qu'on en parle. C'est le but.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité?
J'ai plus peur maintenant, j'ai peur de tout. La peur d'avoir une petite chose qui ne compte que sur toi, qui ne vit que pour toi, et voilà, on sera plus jamais, j'arrive pas à trouver le terme, mais tu vois, cette naïveté, quoi, il y aura toujours cette petite chose mais qui est incroyable. Qui est incroyable. Après, j'ai toujours détesté le genre de phrase le plus beau, la plus belle chose au monde pour moi, c'est mon métier de mère, machin. Vraiment, mais ce que je déteste le plus. Mais en même temps, je peux comprendre que ça rend gnangnang parce que moi, je suis gaga. Je lutte, par exemple, je suis contre les photos des enfants sur Internet. Voilà, c'est personnel. Et moi, je veux protéger au maximum ces données personnelles, même si c'est très naïf de ma part. Donc, je ne mets pas des photos d'enfants sur les réseaux sociaux, mais je lutte. J'ai qu'une envie, c'est qu'on voit mon bébé. Mmh. Quand je l'habille bien, que je fais ces deux petites couettes et que je la trouve belle, mais je prends sur moi pour ne pas poster en me disant « Mais non, tu es partie sur cette démarche, donc sois cohérente. » Mais non, mais je suis complètement gaga. Hier, par exemple, on l'a couchée, on se matait des vidéos d'elle après. Quoi. Mmh. Non, en fait, c'est ça, c'est que... Puis t'as envie de montrer des photos d'elle, tout ça. En fait, tous les trucs que je trouvais chiants, bah, je le fais. Quoi. Mais c'est fou. C'est les premières soirées que je me suis accordée après avoir eu le bébé. Mais si j'avais pu passer ma soirée à montrer toutes les photos, les vidéos, ouais. En fait, je suis un cliché, il n'y a rien à faire. Bon, faut assumer, puis c'est tout.
T'es un peu une connasse, quoi.
Ouais, ça, j'ai toujours su un. Ouais, non, franchement, c'est vrai.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Ouais. C'est quoi pour toi être une maman parisienne ?
Une maman parisienne, je pense que c'est fou. C'est beaucoup de courage. Vraiment. Je pense que c'est... Franchement, hein, vraiment, je pense que c'est vraiment dur. C'est une ville quand même qui est dure. Tu cours, tu pousses ta poussette, t'as pas de crèche, tu dois te battre pour un morceau de carré de pelouse pour ton enfant, de trouver la bonne heure pour qu'il puisse aller jouer au square. Non, c'est dur, quoi. Après, je veux pas être comparée par les provinces en disant c'est plus dur. En tout cas, c'est dur. Mmh. Voilà. Et donc, quand je vois les mamans parisiennes, je me dis qu'elles ont un mérite de fou. Quoi. Franchement.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré ?
Et j'aimerais en connaître plus, parce que mon enfant marche depuis peu de temps. Et donc, je sais, il y a le Square Gardette que j'ai découvert, là, où on peut manger en terrasse, et les petits, ils peuvent jouer au milieu, il n'y a pas de voiture, rien du tout. En fait, je voudrais connaître plus d'endroits comme ça à Paris, où on peut faire brunch, apéro, avec les enfants en sécurité. Parce que la dernière fois, de voir ma petite par terre en train de s'amuser avec les mégots de clope, c'est un bout de trottoir, pendant que toi, t'es en train de boire un verre, tu te dis, ah non, là, en fait, non, faut que je trouve des trucs qui te friendly. En fait, je n'en connais pas. Parce qu'en fait, j'ai toujours été en dehors de tout mouvement en rapport avec les enfants. Mm. Parce que, dès qu'il y a des enfants, ça m'intéresse pas trop, si tu veux. Ouais. Mm. Et maintenant que je suis maman, en fait, je dis, ah, c'est cool! En fait, c'est bien que ça existe! Ouais. Parce qu'avant, j'étais vraiment le genre de meuf à dire, vraiment, tu veux vraiment qu'il y ait les enfants qui viennent? Oh. Et j'avoue que maintenant, je suis bien contente quand ils les acceptent, quoi.
Et quels sont tes projets, rien que pour toi et ceux prévus en famille ?
Ah, rien que pour moi, si, ce week-end, je pars surfer. Parce que moi, j'adore le surf. Et depuis que j'ai la petite, je suis allée juste surfer une fois. Elle avait 3 mois. Je l'ai quittée 2 nuits. Ça a été très dur pour moi. Alors que là, je sens que ça va être beaucoup plus facile pour moi. Elle a 15 mois. Là, 2 nuits, je suis contente. Je pars ce week-end avec une copine. On va faire que du surf. Et c'est rien que pour moi. Complètement égoïste, pas de mec, pas d'enfant, juste là.
Et tes projets en famille ?
Projets en famille, j'espère qu'on pourra partir cet hiver, vraiment, parce qu'il y a un lieu au Club Med où on voudrait partir. Bon, c'est un peu égoïste aussi parce qu'ils gardent les enfants et tu peux te retrouver entre parents, machin. Mais voilà, les petits ils s'éclatent et moi j'adorerais partir au soleil. Bon, ça, c'est hier. Ça serait le truc, tous les trois, on kifferait. Parce que cet été, bon, c'était les vacances en famille, chez la famille. Là, je voudrais qu'on se retrouve tous les trois. Mmh. Voilà. Ça, c'est un projet. C'est tout de suite.
Merci beaucoup, Marie-Aldine.
Merci de m'avoir reçu. J'ai beaucoup parlé. Très bien.
Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant 5 étoiles et un avis sur votre application podcast et sur iTunes. Et rien de mieux que le bouche à oreille, alors parlez-en aussi autour de vous. Pour échanger sur le sujet abordé avec Marie-Aldine, retrouvez-nous sur le compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de la maternité, la vraie, dans un nouvel épisode.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.